La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Après Bruxelles-Barcelone, en fait, c'est parce que c'est un échange. Bruxelles-Vanoli via Barcelone. Le programme, c'est le suivant. Première chose, on est très content parce qu'il y a eu 52 personnes qui voyagent depuis Bruxelles à Barcelone. Comme je dis toujours, expo d'architecture, il y en a tous les jours, mais que les architectes, les intéressés voyagent en se payant hôtel et avion, et ça ne se fait pas souvent.
Je suis venu il y a 20 ans, je pense. Donc j'avais des espèces de souvenirs, des images que je ne retrouve d'ailleurs que très peu. Et donc je suis très content de revoir cette ville qui est magnifique. Surtout qu'hier, on a eu un temps plutôt bruxellois et aujourd'hui très ensoleillé. Et du coup, c'est vraiment une ville étonnamment très différente d'une journée à l'autre. En tout cas, pour les quelques jours qu'on passe ici.
Cities Connection Project. Barcelone et son architecture. Regard d'architecte d'ici et de là-bas.
Deux conférences. Une de Ferran Grau sur la problématique d'architecture urbaniste pour présenter la ville de Barcelone. Et Audrey Contès qui fera la même chose côté Bruxelles-Vallonie.
Tonight, I will try to give you some keys to understand Belgian contemporary architecture. And more specifically, the architecture from the French part of this country. The selection that it presents in the exhibition that you will soon discover is not mine, it's the one of the curator, but it shows in a very clever way the diversity of this architectural production from the last 10 years.
Alors ça, c'est pas moi qui a choisi. On a été sélectionnés parmi 20 autres architectes francophones de Belgique pour participer à un échange francophonie belge et Barcelone.
If you just go very quickly through this selection, you will directly feel this diversity. And also, of course, that there is no aesthetic homogeneity.
Audrey Contès, on vous entend parler anglais.
Je donne un peu le background et les clés pour comprendre les projets, les 20 projets qui ont été sélectionnés dans cette exposition.
Nous, on a présenté un bâtiment de construction neuve, de 4 appartements en plein centre bruxellois, dans un contexte très très dense. Et le thème de l'exposition en général était la reconversion de la ville, recréer un morceau d'îlot qui était un peu en jachère, enfin, il y avait un vieux garage dessus, mais donc on recomposait quand même une partie de la ville avec ce petit immeuble de logement.
Quels sont les points communs entre ces architectures ? Parce que quand on les regarde au niveau stylistique et esthétique, il n'y a aucun point commun, au niveau des programmes non plus. On montre plutôt la diversité dans cette sélection, que je n'ai pas faite, mais que je trouve justement montre particulièrement bien cette diversité de la production architecturale en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse, donc...
Vous allez où ?
11e.
Ces lieux nous parlent.
Cities Connection Project. Barcelone et son architecture. Regard d'architecte d'ici et de là-bas. Avec entre autres Nicolas Recucci, Audrey Contès, Anne Ledroit, Antoine Vincentelli, Johan Nielsen, Judith Leclerc, Pascal Raillet, Perrine Ernest et la voix de entre autres de Michel François. À propos du film La Ricarda, enregistré à Bruxelles en 2007. remerciements, Lamia Ben Jaffar et Nathalie Brisson. Pourquoi Barcelone pendant 3 ans, Johan Nielsen?
Quelles 3 années d'abord? C'était 2000-2003. C'était une période absolument fabuleuse. C'était en pleine bulle immobilière, mais on ne savait pas. Et il y avait énormément de choses qui se faisaient ici.
Cities Connection Project par Thierry Genico. Cities Connection Project, production Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Comment s'intégrer dans un tissu très dense, du vraiment, alors là, hypercentre de la ville barcelonaise et du contexte historique, en puzzle comme ça, qui venait à la fois s'affirmer comme une architecture contemporaine, en ayant un grand respect des structures préexistantes.
Des grands noms, déjà. Il y avait des architectes extraordinaires. Carlos Ferrater, Enric Miralles. Il y avait une culture de l'espace public, enfin, il y a toujours, d'ailleurs, absolument fascinante. Et puis, je pense aussi, il y avait une machine de publication assez efficace, assez redoutable. Et donc on était, donc, nous à l'époque étudiants, on recevait beaucoup de Barcelone. Ça, elle avait une influence qui était non négligeable, donc passage obligé quelque part. Et puis en restant ici, en vivant ici, avoir pris goût vraiment à la ville et donc être resté. Voilà pourquoi je dirais 3 ans.
Je trouve que c'est assez proche de ce qu'on recherche dans du contexte historique existant, en tout cas à Bruxelles.
Et donc tout s'est transformé, mais la mairie de Barcelone voulait récupérer le bâtiment qui formait la SECA. Elle a commencé à acheter une petite part des bâtiments, celui-ci qui a été le dernier. Allez. Celui-ci qui a été le dernier, ça a été le premier que la mairie a acheté. Et précisément, l'intérêt qui était, c'était pas bon, comme usine de la monnaie, il ne se gardait rien. Simplement, on a fait des travaux archéologiques, on a trouvé juste des petits coins et il n'y avait pas de machines. On a trouvé quelques dépôts, mais l'intérêt, c'était évidemment pour l'histoire, mais aussi pour le bâtiment. Puisqu'il a été l'usine, mais pour son histoire et son développement. Il y a des parties qui sont du 6e siècle et après se sont transformées. Mais l'intérêt, c'était aussi cette couverture du patio central. Ça a fait un grand espace, plus grand, à rez-de-chaussée. Donc l'intérêt, c'était que ça devienne une salle de spectacle. Donc le premier projet que j'ai fait, c'était de réhabiliter ce conjoint d'agglomération autour de ce patio pour devenir une salle de théâtre. Et aux étages, il n'y avait pas un client spécifique, c'était un culturel, on ne savait pas.
Antoine Vincentelli.
Réaffectation avec, tout de même, si j'ai bien compris, beaucoup de transformations, mais tout en essayant de garder l'esprit de départ du bâtiment, essayer d'abord de comprendre son histoire, la manière dont étaient agencés les espaces dès le départ, mais avec beaucoup de transformations finalement à travers le temps. Et donc ce que j'ai trouvé super intéressant de la manière dont elle expliquait, c'est qu'il y a d'abord une compréhension de toute l'histoire, des petits changements qui ont été effectués, et puis il y a une intervention globale, en tout cas dans sa réflexion, pour essayer de retrouver des nouveaux espaces qui sont dédiés à un nouveau projet finalement, qui est une salle de théâtre et quelques salles qui sont plutôt polyvalentes, quoi, parce qu'elle, si j'ai bien compris, elle n'avait pas le programme complet dès qu'elle a commencé à travailler sur le projet.
Cities Connection Project.
J'ai trouvé que les problématiques étaient quand même assez proches de ce qu'on retrouve à Bruxelles pour la construction du bâtiment. Pour la densité, essayer de travailler avec un tissu déjà existant.
Anne Le Droit, si nous suivons le premier jour le parcours dans le centre culturel, qu'a nous a montré l'architecte.
Il n'y avait pas un programme concret, donc je fais une réhabilitation qui juste adapte les espaces exacts qui existaient. Un rez-de-chaussée libre, le plus libre possible pour avoir cette salle de spectacle.
J'imagine que ça a dû être une contrainte très très forte pour l'architecte. Mais quelque part, moi je trouve que c'est un peu comme la construction de la ville qui se fait par petits morceaux et donc on doit toujours composer avec ce qui a été fait précédemment.
Ici des espaces publics très fouillés, avec des belles ambitions, je dirais, et puis une vraie culture de faire de l'espace public riche. Une vraie culture de ceux qui la font, de ceux qui la commandent, de ceux qui la construisent. Et je trouve que ça se sent vraiment dans la vie. Alors évidemment, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a aussi une vraie culture, je pense, de vivre effectivement dehors. Et donc, un soin apporté à ces espaces publics et collectifs, etc. Et puis par contre, je dirais presque à contrario, un habitat qui est finalement, en tout cas, là où on vivait nous, c'est pour ça que je parle vraiment... en mon nom, plus ou moins au centre, dans le centre de Barcelone, un espace domestique assez dégradé. Des appartements... je pense qu'on n'accepterait pas vraiment à Bruxelles. Donc il y avait comme ça cette espèce de dualité inversée par rapport à Bruxelles.
C'est comme si cet architecte avait fait, en tout cas en termes de projet, presque deux projets côte à côte... elle a réussi, comme elle était l'architecte des deux, à créer du lien entre les deux parties.
Barcelone et son architecture. Regard d'architecte d'ici et de là-bas.
Ce phénomène de reprendre des anciennes usines pour les retransformer en lieu culturel, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où c'était une usine, ils avaient besoin de hauteur sous plafond importante, ils avaient besoin de portée importante pour pouvoir travailler, et c'est ce que nous, aujourd'hui, on recherche un maximum pour ce type de nouveaux programmes. Et du coup, on voit fleurir ce type de projet un peu partout en Europe, en fait. Et il y a des qualités intrinsèques à ces bâtiments-là, surtout dans le matériau même. Donc on est en recherche de matérialité aujourd'hui dans l'architecture, mais là, on la trouve toute naturellement. Et puis, ce qui est intéressant de voir à travers ce type de projet qu'on visite aujourd'hui, c'est de quelle manière on va pouvoir jouer avec ça. Des nouvelles manières de travailler le matériau, mais parfois le même matériau, comme ici, que je trouve très intéressant, la manière dont ils ont tiré parti de l'ancien matériau de la cheminée, en fait, pour travailler avec cette brique à travers tout le projet, mais de manière, en fait, très contemporaine. Avec cette histoire de mouchard à biais, qui est un élément qui revient très fort, hein, mais qui offre effectivement, de l'intérieur comme de l'extérieur, des perspectives à chaque fois étonnantes.
Un bâtiment industriel, il est probablement moins cloisonné, il est plus flexible, il est plus souple pour une réhabilitation. Ouais. On a peu, dans notre pratique, réhabilité de bâtiments industriels. Pour le moment, on a une commande à Saint-Gilles d'un bâtiment qui était un bâtiment de Belgacom, avec des grands plateaux libres de cloisonnement, qui était... vraiment à la base des standards téléphoniques il y a très très longtemps de ça. Et donc là, on est dans cette expérience-là de réhabiliter un bâtiment plutôt industriel en centre culturel. Donc c'est à peu près la même programmation que ce qu'on a vu lors de la première visite à Barcelone. Donc ça peut nous aider.
Moi, je m'y retrouve effectivement... parce que, bon, évidemment, la base, c'est héritage d'un bâtiment ancien qui a passé diverses façons de l'utiliser. Et puis, d'abord, le comprendre et interagir avec lui. Effectivement, à Keramis, on a fait un travail sur le matériau aussi, alors qui est très différent d'ici, dans le sens où on a pris le contre-pied plutôt.
Même si le programme... Dans notre cas, il est beaucoup plus simple. Il y a trois grands plateaux libres qui vont rester libres parce que on va y présenter des œuvres d'art et donc la liberté d'utilisation des plateaux elle est essentielle. Donc finalement, le bâtiment tel qu'il est correspond très très fort à l'usage futur qu'il va y avoir.
Johan Nielsen.
Une Barcelone des années 60 qui me fascinent beaucoup, qui m'intéressent beaucoup, avec des belles structures, avec un peu maladroites, qui s'inscrivent parfois effectivement maladroitement dans ce tissu, mais qui sont belles. Et donc je trouve que finalement, malgré peut-être sa réputation, finalement elle partage peut-être aussi ça un peu avec Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a essayé des choses qui parfois ont raté. Et donc c'est pas du tout une ville homogène pour moi.
Keramis, c'est plutôt un monochrome de briques qu'on a hérité, et on a travaillé plutôt avec une sorte de monochrome de béton qui vient dialoguer avec... Donc c'est deux monochromes qui dialoguent. Bon, ici, c'est un travail qui est différent. Beaucoup de matériaux différents ici, hein, donc ils n'ont pas hérité d'un monochrome. Ils ont hérité de bâtiments beaucoup plus hétéroclites. Oui, il y a un départ qui est commun. Après, il y a une manière très différente d'interagir avec, mais... qui est du coup, évidemment, encore une fois, très, très intéressante à visiter. Antoine Vincentelli.
La municipalité qui a racheté, puis qui a racheté ceci, puis qui essaye vraiment, avec son architecte, de faire un espace, malgré toute cette... cet assemblage, quoi. Voilà, ça m'inspire, ça.
C'est pas une galerie, c'est un collectionneur qui va présenter des œuvres de sa collection privée avec des roulements. C'est un peu un fonctionnement de galerie, mais c'est plutôt un centre culturel.
Ici, c'est porté vraiment par le public, que ce soit l'État, que ce soit la municipalité, c'est l'argent public. Alors qu'un autre modèle à Bruxelles, qui est beaucoup plus celui de l'associatif, hein, c'est vraiment le tissu associatif, qui prend le relais et par le biais de subsides développe des choses. Je trouve qu'ici, il y a une autre cohérence, en tout cas, qui est donnée. C'est l'argent public et des projets développés par différents niveaux de collectivité, même si c'est un mot très français.
Ensuite, on fait l'inauguration de l'exposition. Je l'avais dit l'autre fois, il y a toujours les 20 projets de Barcelone et les 20 projets de Bruxelles-Wallonie. Ce qui change, c'est qu'il y a les maquettes cette fois. Comme à Bruxelles, il y avait les maquettes des Bruxellois, Wallonie. Cette fois-ci, il y a les maquettes des Catalans.
L'espace, les matériaux, ça, sont pris très au sérieux par tout le monde, c'est-à-dire par le client, par les intervenants au projet, en discutant un peu avec des confrères d'ici. Ici, il y a une vraie culture de construire contemporain qui a d'être partagée par pas mal de gens et partagée par différents acteurs, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des entreprises qui construisent, au niveau des... voilà, c'est entendu, quoi. C'est partagé, c'est collectivement... Et puis je pense que les gens aussi attendent de la qualité. Ouais, moi, ça me laisse songeur.
Voilà. C'est pas une exposition juste sur un côté ou sur l'autre, mais c'est une évolution. On a commencé en Suisse, donc dans le canton du Tessin, donc la Suisse italienne, où je viens. Donc moi, je suis du Lugano, c'est pour ça qu'on a commencé cet échange avec Barcelone, avec le Tessin, pour des motifs logistiques et puis sentimentaux. Le thème du Tessin, c'était un peu le territoire, dans un territoire très plat, à la limite avec l'Italie, et puis... Elle termine à 2000 mètres d'altitude, le canton du Tessin. Donc c'était très intéressant, ce parcours, presque en utilisant l'autoroute, on commence du plat pays, pour arriver jusqu'en haute montagne, donc des différents projets. Évidemment, après, il y a les projets de Barcelone, les correspondants, donc ça, c'était plutôt le thème de Barcelone, c'était le logement social.
Je dis que Leclerc.
Continuons de travailler infatigablement pour la justice et la démocratie, pour nos rêves. On a droit d'être qui on est. C'est l'esprit de cette école. C'est une école assez spéciale. C'est une école qui s'est construite avec l'équipe pédagogique, qui a un système, vous allez le voir, assez alternatif de donner les classes. Tandis que normalement, quand on fait des écoles en Catalogne, j'en fais plusieurs, on est obligé de suivre une espèce de bible, des recommandations pour des gens qui sont droitiers, il n'y a pas de gaucher, on ne prend pas en considération ces exceptions, et donc c'est de la particularité de cette école. On nous la recommande souvent de l'étudier pour la connaître parce qu'elle est spéciale. Et c'est pour ça que c'est la directrice qui l'explique et non l'architecte.
La question prioritaire de notre projet pédagogique, ce n'est pas ce que l'enfant doit faire à l'école, c'est comment on peut se devenir une personne complète. Pour nous, c'est très important, tout la faisons aux émotions et aux sentiments. Et on pense que pour apprendre, il est vraiment nécessaire d'être joyeux et être confortable avec un-même et avec les copains.
Le projet de l'école nous intéressait particulièrement parce qu'on est occupé à construire une école dont les principes sont un peu similaires, avec une grande fluidité des espaces de circulation et un élargissement assez important des espaces de circulation, de façon à ce que ces espaces puissent servir d'espaces polyvalents et supporter une pédagogie un peu différente. L'explication que la directrice de l'école a fait ici est assez intéressante dans la mesure où on sent qu'en Belgique, il y a, je pense, une évolution de la pédagogie dans les écoles qui va dans ce sens-là. Mais simplement, les locaux ne sont pas toujours adaptés. Et donc, c'est là que le lien entre architecture et pédagogie prend tout son sens.
Ils veulent laisser une certaine liberté aux professeurs pour appliquer eux-mêmes leur thème ou leur méthode d'enseignement.
Les espaces que nous concevons doivent être au service des utilisateurs. Et les utilisateurs, c'est en premier lieu les enfants et puis les enseignants. Et donc, en fonction, je pense que d'une manière générale, on doit relever à la plus grande polyvalence possible des espaces, puisqu'on sent que les activités sont en permanence multiples et que l'enseignement frontal des élèves assis sur un banc face à un tableau tel que probablement notre génération a pu les connaître disparaît aujourd'hui et c'est probablement une bonne chose.
Et cette école que vous érigez, où se trouve-t-elle ?
C'est à Namur.
Ici, il y a aussi 7 ambiances. Chaque ambiance est pour développer quelques façons importantes de l'éducation. Il s'appelle Créa Math. C'était pour travailler la mathématique à partir de la cuisine. Alors, il y a là une zone qui c'est pour cuisiner, pour développer le pensement scientifique et mathématique.
2 extensions du Collège Notre-Dame de la Paix Herpan, la construction d'une nouvelle école maternelle d'une dizaine de classes et la construction d'une extension de l'école secondaire d'une dizaine de classes également.
Il y a une ambiance qui s'appelle Design.
Mon nom est Pascal Rayet du bureau LR Architecte.
In front, 13 avant, c'est une ambiance pour travailler toute la communication verbale en non-verbal, orale en écrite. Cosmos, c'est pour travailler comme l'homme a changé le monde. Et in front, bios, c'est pour travailler la matière vive. Personne, animaux, en plantes. Et enfin, il y a un autre ambiance, c'est une ambiance artistique, on l'appelle atelier. Atelier de 2 artistes qui ne sont pas professeurs. Et ces artistes, on peut utiliser cet atelier quand elles veulent, mais au contraire, ils ouvrent l'atelier 8 heures par semaine. Les enfants, ils peuvent aller là, tout faire ce qu'elles veulent.
C'est un bâtiment très intéressant. Je trouve que ça devait être chouette en tant qu'architecte, je pense, de rebondir sur un programme pareil. Je crois que c'était déjà un bon point de départ quand on voit la pédagogie à l'école. Je pense que ça devait être vraiment intéressant de rebondir là-dessus. Après, je trouve que voilà, c'était un bâtiment qui a beaucoup de qualité. J'aime beaucoup le côté, l'aspect urbain, en fait, leur volonté d'avoir marqué une urbanité dans l'architecture et qui contraste, alors j'étais étonnée par contre en entrant, de la manière dont ça contraste avec le côté intimiste des espaces à l'intérieur, qui sont presque sombres, introvertis, comparé à l'architecture extérieure, avec des fenêtres, vraiment à l'échelle urbaine. Mais c'est un lieu dans lequel je pense que les enfants se sentent bien.
Judith Leclerc.
La particularité, c'est la forme des classes. Il y a, normalement, on a un corridor et des classes, un corridor étroit, des classes larges. Dans ce cas-ci, il y a un peu de confusion parce que le corridor est presque aussi large que les classes.
Mais c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est lié à la fois à la pédagogie et à la fois à l'architecture. Et c'est vraiment un bel exemple qui montre comment les choses peuvent se répondre et se compléter.
Et les classes sont ouvertes sur le corridor de manière à ce qu'on puisse faire une classe étant dans le corridor ou dans la classe ou joindre deux classes. Donc, il y a une liberté spatiale qui essaie de ne pas conditionner le format de la classe.
Je voudrais voir comment ça se passe quand ils sont centrés, quand ils sont autour d'une table. Mais voilà, oui, j'aimerais beaucoup suivre un cours dans cette école. Perrine Ernest du bureau Spécimen à Namur. Alors nous, on travaille beaucoup de programmes privés, principalement du logement, donc que ce soit de l'habitat unifamilial ou de l'habitat groupé. Des centres de soins psychiatriques en fait en milieu urbain, donc à Bruxelles, que ce soit des centres de jour ou des habitations protégées, voilà, des chambres destinées aux personnes qui sortent d'hôpitaux psychiatriques.
À partir de là, on est passé à Genève. Genève, le thème, c'est très intéressant parce que Genève, c'est une enclave presque en France. C'est-à-dire qu'il y a Genève, elle a 10 km de limite avec la Suisse et 110 km avec la France. Donc c'est une enclave, il y a le thème des frontaliers. Et pour ça, ils sont en train maintenant de faire une nouvelle voie de chemin de fer, style un peu la parisienne RER, que Danemark en France puisse arriver au centre de la ville à Genève, et ils ont créé des nouvelles stations de ce métro léger, disons. C'est important parce que chaque matin, il y a 500 000 voitures des frontaliers qui viennent travailler en Suisse, donc c'est une thématique très importante. Nous, on a choisi des projets résidentiels autour de ce nouveau quartier, autour de ces nouvelles gares. Donc chaque fois, un thème bien défini.
Et Anne Le Droit, les retours que vous avez eus de cette exposition qui a eu lieu à Barcelone, quels étaient-ils ?
On a eu pas mal d'échanges avec les architectes barcelonais sur place, et ça, c'était très intéressant de pouvoir se découvrir mutuellement.
Bonjour, bienvenue, je vais essayer de parler un peu fort, je veux dire quelques mots avant d'entrer.
Tous les projets qui ont été présentés, il y en a certains qui ont une espèce de reconnaissance internationale, mais peu finalement, et donc c'était vraiment une découverte d'une architecture bien locale, et les retours étaient très positifs. D'ailleurs, l'exposition, elle a eu lieu en octobre 2018 à Bruxelles, et le bâtiment de logement qu'on a présenté à l'exposition a fait l'objet d'une visite. Nous l'avons ouvert aux architectes barcelonais qui ont fait le déplacement, et donc ils ont pu visiter ce bâtiment-ci.
La crise, c'est 50% des bureaux des architectes ont fermé en Espagne. La nouvelle génération d'architectes s'est réinventée, travaille de façon plus comme des coopératives, travaille beaucoup aussi avec les usagers. C'est des gens qui vont... on a ici un exemple, le groupe de l'ACOL, c'est une coopérative qui va aussi organiser des réunions avec les gens de la ville, non, et agrandir le processus de participation collective, non, du design. Donc ça, c'est les nouvelles générations qui montent, donc ça, c'est vraiment présent. Et aussi, la crise énergétique, ben, ça vient du fait que plusieurs personnes ont perdu leur logement durant la crise en Espagne pour ne pas pouvoir payer l'hypothèque. Il y avait beaucoup de mises à pied, alors ça a été très important à Barcelone pour la nouvelle mairesse. Le thème des logements, mais vraiment faire des logements sociaux.
Et ils étaient très enthousiastes par rapport aux détails, à l'insertion dans le tissu urbain. Et ça, c'était assez rigolo. Ben, on voit qu'on n'habite pas sous les mêmes climats. Mais l'appartement qui leur a le plus plu en termes d'habitabilité, c'était celui que nous, on trouve très chouette en volumétrie, mais le moins lumineux. Et nous, les Belges, on est vraiment à la recherche de la lumière. Et donc, on fait des grandes baies vitrées. Et c'est vrai qu'à Barcelone... Je ne dis pas qu'on fuit la lumière, mais quand même, il faut s'en protéger. Donc, étonnamment, par exemple, le duplex dans notre, du haut dans notre immeuble à Saint-Gilles, il était questionnant pour les Barcelonais, parce qu'il était très, très ouvert sur l'extérieur et très lumineux.
Ce logement mixte qui est venu issu de la crise en Espagne, hein. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé, hein.
Faire des logements sociaux aussi avec une nouvelle vision. En fait, c'est des logements sociaux, comme on en a toujours fait, mais qu'ils ont un mélange, c'est-à-dire que c'est aussi des logements temporaires pour des personnes qui ont perdu leur logement durant la crise. Et presque tous les projets que vous voyez de Barcelone ont une attention très particulière pour sauver l'énergie. Non, ça, c'était une chose qu'on ne prêtait pas attention. Dans la Méditerranée, on croyait que c'est facile, il ne fait pas froid dehors, etc. On a soulevé beaucoup le problème de la pauvresse énergétique. Et donc, presque tous les projets ont cet essai pour être très efficaces, non, réduire la demande, utiliser des systèmes passifs, traditionnels, mais disons bien élaborés, pour réduire les coûts. Donc, c'est un peu arte povera, hein, si on voudrait choisir un mot pour expliquer tous les projets qu'on voit un peu de Barcelone.
Ce bâtiment dont l'architecte est Judith Leclerc, mm-hmm. canadienne, mm-hmm. qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je trouve qu'en termes de programmation, c'est vraiment très ambitieux. Je ne sais pas qui était le maître d'ouvrage qui a pu permettre ce type de dispositif. C'est très généreux et je ne suis pas sûre de voir qui pourrait mettre en place ça, en tout cas pour le moment, en Belgique.
Mon nom est Judith Leclerc et mon agence est Coy Leclerc à Barcelone. Et le projet qu'on présente, c'est celui-ci. On appelle Mixed Dwelling parce qu'il y a plusieurs types d'appartements, plusieurs types de modalités et plusieurs durations. Il y a des personnes qui peuvent rester là à vie, des locataires, tandis qu'il y en a d'autres, c'est des personnes qui vivaient sur la rue, ont un certain accompagnement, ils peuvent habiter là de 3 mois à 15 mois. Et donc, ils partagent plusieurs parties de l'édifice, non, comme ils vont avoir des buanderies ou des restaurants, des réfectoires, disons. Ils ne mangent pas dans leur appartement, ils mangent en groupe. Non, ils ont des suivis, ils ont des ateliers avec les psychologues, etc. Et le but est de les réinsérer dans des logements normaux. Et ce que fait notre projet, c'est qu'en fait, on le camoufle. On n'essaie pas de montrer qu'il y a deux types de propriétaires, non, ou de locataires. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, de les camoufler, mais de les intégrer. Et on pense que de cette façon-là, on peut encourager la réinsertion d'un côté comme de l'autre. Non?
Je crois que le projet, il arrive vraiment à résoudre cette équation-là. Mais je n'y ai pas vécu sur le long terme. En tout cas, quand on le visite, on a l'impression que c'est quand même assez bien réfléchi.
L'édifice est récent. Il a été terminé au mois de février. Il est habité depuis le mois de septembre par les locataires, disons, normaux, ceux qui ne sont pas assistés. Et les logements temporaires vont être habités à partir du mois de janvier. Alors, comme la mairie a pris possession de l'édifice, a décidé qu'il soit utilisé déjà, en ce moment, on reçoit des migrants qui viennent du Sub-Sahara et on leur donne un premier traitement de bienvenue à Barcelone, au rez-de-chaussée, dans le futur endroit des logements.
Il faut avoir droit à un accès à un logement social, mais c'est des logements, en tout cas pour le moment, plus formatés, plus pour le long terme. Ça existe peut-être, hein, c'est peut-être moi qui ne connais pas, mais moi je trouve ça quand même hyper intéressant en termes de programmation. Oui.
Et ce fait qu'on ne puisse pas distinguer qui est précaire, qui est...
Alors ça, c'est, pour moi, ça, c'est la force du projet. Parce que je pense que si on commence à dire, là, il y a les personnes précaires et pouvoir les situer, et là, il y a les personnes moins précaires, c'est vraiment, je trouve au quotidien, pour les personnes précaires, très compliqué à vivre. Ça, c'est vraiment la grande force du projet, c'est de ne pas pouvoir les situer. Il y a une espèce de mélange un peu informel qui se fait, tout en finalement, quand on regarde la circulation, les entrées, il n'y a pas vraiment de mélange au niveau des flux, mais en même temps, on ne sait pas forcément repérer dans le bâtiment exactement où sont les personnes les plus défavorisées.
C'est expérimental dans le sens que je n'en connais pas d'autres en Espagne, c'est les premiers. Et je sais que ceux qui l'ont mis sur place sont allés visiter des choses semblables en France. C'est expérimental dans le sens qu'on ne connaît pas encore les résultats que ça aura.
Anne Letroit.
Nous, on avait une commande à Walcourt pour ce type de logement, justement. Donc, je vous dis que je ne connais pas encore d'exemples qui se sont réalisés, mais il y a des tentatives de le faire. Et à Walcourt, on nous demandait de placer sur un site où on allait construire des nouveaux logements sociaux, de placer à côté de ces nouveaux logements sociaux des préfabriqués pour des personnes de passage qui seraient sans logement. Mais alors, nous, ça nous posait vraiment un problème de répondre à cette demande-ci, parce que, clairement, on dissociait très très fort les logements des personnes défavorisées, des logements plus normaux, entre guillemets, parce que ça reste du logement social, donc c'est quand même pas forcément les plus favorisés de la population. À notre sens, ça marchait pas.
On l'appelle le jardin d'hiver.
Judith Leclerc.
C'est un dispositif traditionnel, mais qu'on a décidé de technifier un peu. On a décidé de le paramétriser. Alors, jardin solaire, qu'est-ce que c'est? C'est une serre dans sa maison. Donc, la maison est une grande pièce qui est la ventilation croisée, bien orientée, c'est-à-dire plein sud, vers la mer, à Barcelone. Ensuite, on a un filtre qui est ce jardin solaire, cette serre. Et ensuite, on a la loggia. La loggia qui est positif méditerranéen de toute la vie. Et on a décidé de calculer combien on sauvait d'énergie sans avoir à ajouter de l'isolation, disons, au mur. On est arrivé à des numéros de 33%, c'est-à-dire qu'on sauve 33% de chauffage parce qu'on a ce dispositif.
Donc on avait même répondu au concours en disant, nous, on va vous construire des logements de passage dans les bâtiments des logements sociaux. Et comme ça, on ne sait pas qui est qui et on ne peut pas mettre une étiquette sur ces personnes-là, afin de ne pas les stigmatiser, pour le même prix que les préfabriqués, qui finalement, n'étaient pas forcément peu chers, ils étaient même très chers. Donc, pour le même prix, on pouvait faire des logements plus décents et pas étiquetés.
Imaginez-vous un endroit où on peut lire un livre, on peut avoir des plantes, et en été, on doit complètement l'ouvrir, non? Alors c'est un dispositif d'une série de verres qui peuvent s'ouvrir complètement, et très important, il fait très chaud en Espagne en été, donc on a un système de persiennes barcelonaises très anciennes qu'on a décidé de réinventer, non? La persienne à Barcelona. Et c'est très important d'ombrager cet endroit, mais en hiver, de l'avoir plein soleil. Donc c'est un dispositif qui finalement, d'après toute la paramétrisation qu'on a fait, il sauve 23% de chauffage, mais il sauve 44% de climatisation en été. Donc peut-être qu'on pourrait changer le nom et l'appeler jardin d'été. Mais pour le moment, au niveau du concours, on l'appelait jardin d'hiver et le nom est resté comme ça. Les gens l'appellent jardin d'hiver. Alors les logements, on les a donnés avec les clés. Et avec un petit dessin expliquant aux habitants comment ils devaient faire pour réellement en profiter, pour éviter d'avoir des frais élevés d'électricité.
Après, on est passé à Zurich, donc on a essayé de faire Suisse italienne, Suisse francophone, on passe à la Suisse alémanique. Le thème de Zurich, c'était le logement coopératif, très important, c'est une des villes, je dirais, elle fait au monde, elle fait 25% du logement public en mode coopératif, donc c'est hyper intéressant. Donc ça, c'était le thème de Zurich. Après, on est passé aux espaces publics. Donc on a laissé un peu de côté l'architecture, on est passé au... Et puis on l'a appelé Open Space Connection. On peut pour dire c'est même connexion, même voyage, même histoire, mais avec une région. Et on a pris la région de l'Arc Lémanique. Donc espace public et parc, qui part de Genève, passe par Lausanne, Yverdon-les-Bains, Martigny, et on arrive à Sion. Donc là aussi, dans un territoire, une enclave suisse en France presque, le lac Léman, qui est le lac le plus grand d'Europe, et puis on arrive en haute montagne à Sion, à 1500 mètres. Ça, c'était aussi un thème très important. Et là aussi, cette fois à Barcelone, on a changé les projets barcelonais, on a présenté des projets d'espace public sur toute l'aire métropolitaine, pas concentrée sur la ville, mais plutôt sur la périphérie de Barcelone. Donc un thème aussi très intéressant.
On voit souvent les gens de New York, les gens de Paris, les gens d'un peu partout qui viennent à Barcelone parce que c'est un endroit encore, je crois, fort pour l'architecture. Pour moi, venant de Montréal, je venais seulement en vacances à Barcelone, en échange pendant une année. Et quand j'ai laissé tomber mes valises en sortant du train, et j'ai vu qu'ils étaient sur un pavé qui avait été dessiné par Gaudi, et que l'arrêt d'autobus avait été dessiné par Elias Torres, un architecte que j'admirais beaucoup, j'ai pensé, moi, si je reste, parce que les architectes ont du pouvoir. C'est-à-dire que Il y a plusieurs architectes qui participent de la politique, du système de décision dans la ville. Même les chauffeurs de taxi peuvent parler d'architecture à Barcelone. Quand on inaugure un édifice, les gens sont invités, on fait une fête. Donc l'architecture est un débat constant.
Michel François, à propos du film La Ricarda, enregistré à Bruxelles en 2007.
Donc c'est une maison qui a été construite dans les années 50 et l'aéroport était encore assez lointain. Mais entre-temps, évidemment, cet aéroport a conquis complètement le territoire. Et maintenant, les avions atterrissent carrément, quasiment sur le toit de la maison. Elle était aussi décollée, donc c'est devenu, pour cette raison et pour d'autres d'ailleurs, qu'on peut débattre, complètement invivable, quoi. Donc ça, c'est la première raison, c'est ce territoire de l'aéroport qui est en train de la menacer sur deux côtés.
La Ricarda.
C'est une villa. Oui.
Une villa, oui. Enclavée dans l'aéroport.
Oui, la pauvre, parce que cette maison magnifique, et on peut imaginer que...
Anne Le Troy.
Avant l'arrivée des avions, c'était un lieu complètement idyllique, à proximité de la mer... dans la nature, parce que ça reste encore très très vert. Le gros problème, c'est pas trop la nature, c'est vraiment le bruit des avions qui décollent, qui arrivent. C'est très questionnant. On ne sait pas si elle est plus habitée à cause de ça. On nous l'a pas tellement dit, mais on peut imaginer que c'est totalement invivable. Et voilà, oui. La maison est tellement magnifique qu'on aurait presque envie qu'on la démonte pierre par pierre pour aller la remonter ailleurs. Parce que vraiment, cet aéroport, c'est une réelle nuisance.
Voilà.
La mer, en 50 ans, a bouffé 50 mètres de plage. Donc là, cette maison, les propriétaires de cette maison sont en train d'essayer de se protéger de l'envahissement de la mer.
À la fois, c'est une maison très très grande, par sa surface, si on compte les mètres carrés. Et en même temps, hyper bien dimensionnée, qui se déploie sur le sol, dans le paysage, entre les arbres, et qui fait que chaque espace, même s'il est généreux, ne paraît pas immense. Et donc, il y a une espèce de grand confort et de vraiment grande sérénité. Et c'est très vitré. Ça dépend des murs, effectivement. Il y a des murs qui ne le sont pas du tout, mais il y a des dispositifs qui permettent soit des volets, soit des débords de toiture, soit des vitraux, enfin toute une série de dispositifs qui sont mis en place pour qu'on soit très très fort en contact avec l'extérieur et en même temps jamais ébloui, gêné par trop de soleil, trop de lumière, trop de vis-à-vis aussi, grâce à la répartition des volumes. Donc donc je trouve que la relation au sol, au paysage, entre les espaces intérieurs et extérieurs, elle est grandiose. Son hic, c'est effectivement ces avions, puisque l'extérieur, pour moi, il fait partie intégralement de cette maison. Et l'extérieur, il n'est plus trop vivable, à part en tant que juste paysage visuel, mais plus sonore, quoi. C'est quand même un peu un drame, cet aéroport à côté.
Et troisième menace, la banlieue de Barcelone, qui s'agrandit et qui distille toutes sortes de dangers qui viennent de El Prat de l'Obregat, qui est cette commune qui jouxte la propriété.
Et puis, la dernière, et là on arrive au thème de cette exposition, c'est avec Bruxelles-Wallonie. C'est la première exposition aux connexions, suivie par des expositions multilatérales, faites au dehors de la Suisse. Donc c'est très important pour nous présenter ici à Barcelone les projets de Bruxelles.
Le commanditaire, si j'ai bien compris, c'est un homme très riche, mais je ne sais plus quel était son métier, mais qui était vraiment amateur d'art, d'architecture, et donc il avait fait une commande spécifique à l'architecte. Ouais.
Quatrième menace qui était presque imprévisible au moment où cette maison a été construite, c'est que tous les détails de cette maison, jusqu'à la moindre charnière de porte ou quoi, ont été dessinés spécifiquement par l'architecte Anthony Bonnet. Et que du coup, quand on a un problème aujourd'hui, comme cette maison est en bord de mer, pour remplacer la moindre brique, c'est un problème. Les propriétaires sont confrontés à cette impossibilité de retrouver les artisans pour réparer la maison.
Nicolas Regucci.
C'était très agréable ce voyage. Tout le monde était très... motivé, sympathique, passionné.
Donc une espèce de situation un peu invraisemblable comme ça, d'une maison qui a été construite avec une forme d'utopie et qui se retrouve confrontée à une réalité dure qui va l'absorber tôt ou tard. La logique est là, l'aéroport va évidemment conquérir ce territoire. Et puis il y a ce projet d'architecture qui a d'une certaine manière aussi correspondu à une utopie et qui va disparaître par elle-même. Quoi.
Par exemple, un débat, des échanges de brochures, portfolios, des visites sur place. On verra bien ce que ça va donner. Il me semble que c'est encore prématuré pour supposer de quoi que ce soit, même si c'est vraiment hyper intéressant parce que on a pu rencontrer ces personnes, voir certains de leurs projets. L'exposition permet d'en voir plus que ce qu'on a visité. Et donc, on peut imaginer que quand on a des problématiques qui peuvent correspondre à certains projets qu'on a vus et qu'il y ait une commande qui puisse se prêter à une association, oui, on peut imaginer travailler ensemble, oui, il me semble. Et là, je parle plutôt d'une relation internationale entre Belges et Barcelonais, mais moi, j'ai trouvé aussi très intéressant de pouvoir rencontrer les architectes belges francophones que je ne connaissais pas. Et on peut donc imaginer aussi travailler ensemble dans le futur.
Il était une fois une maison abandonnée, habitée par des personnages qui ne se rencontrent pas, une espèce de fantôme, donc fantôme de la maison, fantôme des gens qui ont fréquenté cette maison, etc.
Et pourquoi il est inquiétant ?
Quand on voit la maison, donc c'est quelqu'un quand même qui a travaillé sur cette maison pendant une dizaine d'années, donc il a été très très exigeant avec l'architecte, mais ça m'a toujours fait rire, que jusqu'aux dalles donc, qui recouvrent le toit, donc ils ont choisi 10 couleurs qu'ils ont fait cuire, dans des ocres différents. Au début, quand j'étais dans la maison, ça me faisait penser un peu à 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, comme un peu Kubrick avait une espèce de rigueur comme ça, très excessive, je trouvais qu'il y avait un peu un point commun avec le propriétaire et l'idée. À la base, j'ai essayé un peu d'associer la maison par rapport à ça. Donc, je faisais énormément de travelling pendant la nuit. Et donc, je jouais en même temps donc, ce rôle du propriétaire.
Et ce propriétaire, donc, a travaillé 10 ans avant 1953, date de construction de la maison.
La famille Gomis, qui nous a reçus ici en Espagne, elle conserve toute la documentation, le moindre, j'allais dire fax, mais ça n'existait pas, mais le moindre télégramme, puisque l'architecte était argentin. Donc Bonnet se trouve à Buenos Aires. Et donc ils nous ont expliqué, enfin bon, quand on voit la masse de documents, qu'ils ont travaillé pendant 10 ans pour mettre cette maison au point, jusque dans les moindres détails. Quoi.
Le droit, nous parlons de votre bureau. Un mot sur ce bureau ?
On est 3 associés, 5 collaborateurs. On est à Saint-Gilles depuis presque toujours.
On a quand même habité cette maison pendant un mois et on y a vécu complètement. Donc chaque artiste était invité à y séjourner 4 ou 5 jours et avait à sa disposition un caméraman, un preneur de son et une monteuse.
Anvers serait très intéressant avec la Flandre. On verra. Chaque fois, il y a toujours des possibilités. On a aussi Paris, on a des idées avec Milan. On verra.
Cities Connection Project. Barcelone et son architecture. Regard d'architecte d'ici et de là-bas. Avec, entre autres, Nicolas Recucci, Audrey Comtesse, Anne Ledroit, Antoine Vincentelli, Johan Nielsen, Judith Leclerc, Pascal Rayet, Perrine Ernest et la voix de, entre autres, de Michel François à propos du film La Ricarda. Enregistré à Bruxelles en 2007. Remerciements, Lamia Benjafar et Nathalie Brisson.
Ces voyages organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que ces voyages comptent pour vous? Ils sont importants dans votre pratique, dans cette confrontation que vous avez?
Mais tous les voyages sont importants dans notre travail. Alors, la différence ici avec un autre voyage, c'est que c'est avec d'autres architectes. La plupart d'entre nous, on se connaît, mais du coup, il y a une autre émulation. Et par exemple, ce voyage-ci, je le fais avec un ingénieur avec qui je travaille souvent, qui est Michael Nguyen, de chez JZH, avec qui on a fait d'ailleurs Keramis. Et donc, c'est intéressant aussi de voyager avec un ingénieur, parce que du coup, il a un autre regard sur ce qu'on voit. Et donc là, c'est très intéressant, très important, parce qu'on voit des manières aussi d'édifier les bâtiments. Et lui va les décortiquer différemment que nous. En tout cas, dans ce voyage-ci, c'est ça qui m'intéresse beaucoup.
Cities Connection Project par Thierry Junico. Cities Connection Project, production Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.